Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Auditeur de Poker Menteur, bonjour. C'est votre émission mensuelle favorite, la dernière de l'année 2022. Sujet de cette dernière émission, un sujet qu'on a en tête depuis quelques mois, voire même quelques années. Nous allons parler de la laïcité.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Galade.
C'est donc le Poker Menteur de ce mois de décembre, ce dernier Poker Menteur de l'année 2022, sur un sujet assez sérieux, la laïcité. Alors avec mes compères qui ne sont pas présents aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on voulait parler de ce sujet de la laïcité, qui est un des fondements quand même de l'identité, de la culture française, je dirais de l'histoire française. Mais pour ça, il fallait trouver un interlocuteur intéressant, compétent, et devinez quoi, nous l'avons trouvé. Il s'appelle Jean-Pierre Chantin, il est à côté de moi. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs?
Oui. Bon, d'abord, je suis caladois, ce qui gâte rien. Je suis chercheur en histoire du fait religieux et rattaché à un laboratoire lyonnais, l'Institut supérieur d'études des religions de la laïcité. Une de mes pistes de recherche, c'est justement la laïcité.
Très bien, je vous avais dit, chers auditeurs, qu'on avait trouvé quelqu'un de compétent. C'est formidable. Eh bien, avec Jean-Pierre, nous allons un petit peu parcourir toute cette thématique qui est vaste et riche. Et nous allons commencer par une présentation un peu simplifiée de la laïcité à travers ce que vous avez appelé les trois principes de la laïcité.
Oui, il y a une erreur qu'on fait souvent, on dit que la laïcité n'a pas de définition légale. Mm-hmm. Et en fait, ça veut dire que les gens ne savent pas lire les lois.
Ils ne prennent pas la peine,
mais il y a un conseil constitutionnel qui avait rappelé il n'y a pas très longtemps que tout était dans la loi de 1905,
ouais,
dont on fête l'anniversaire le 9 décembre, c'est la journée
d'accord
de la laïcité.
D'accord, donc pas, donc 110, pas longtemps.
117 ans. Si je ne me trompe pas.
Où la date plutôt sera passée au moment de la diffusion, excusez-moi, nous enregistrons, spoiler, un petit peu à l'avance cette émission, autant pour moi.
C'est quand même le 9 décembre pour l'anniversaire.
Exactement.
Et dans la loi, en fait, il suffit de lire, sur les 44 articles, il suffit de lire les deux premiers,
ouais,
donc c'est pas long. Et dans les deux premiers, il y a trois principes. Le mot laïcité n'est pas employé, hein, mais il y a trois principes. Alors le premier, il est simple, hein, c'est que la liberté de culte, tout le monde a le droit de faire le culte qu'il veut,
d'accord,
même s'il est absurde, même si vous jugez qu'il est très minoritaire, peu importe, liberté totale de culte. Le deuxième principe, c'est simple aussi, quoique, c'est la liberté de conscience, ça veut dire qu'on a le droit d'organiser sa vie avec les principes qu'on veut.
D'accord, c'est pas forcément selon religieux. Sa conscience. Voilà.
Ah oui, c'est pas forcément religieux.
Ça va au-delà, oui.
Les véganes, par exemple, ils rentrent là-dedans.
Oui, totalement.
Alors, il y a une limite quand même avec ces deux libertés, c'est sous réserve que ça ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Voilà.
Donc, par exemple, il y a un culte, les Doukhobors en Russie. Leur culte, c'est tout nu dans la rue. Ils sont aussi au Canada, donc comme quoi ils ont du
mais
courage.
Mais ils sont maso. Pourquoi je dis pas des pays chauds?
J'ai dit n'importe quel culte. En France, ils pourraient pas. Alors c'est pas parce que leur religion est interdite, hein, c'est parce qu'on n'a pas le droit de se promener tout nu dans la rue.
Public, tout à fait.
Donc
tout
les
tout
deux
fait
libertés, mais comme toutes les libertés, hein, c'est toujours limité. C'est plus des droits d'ailleurs.
Voilà.
Et puis le troisième principe, bah, c'est ce que tout le monde connaît, c'est la séparation. Alors moi, je dis de l'État des Églises. Ça veut dire que les Églises n'ont pas à s'immiscer dans la loi, dans les affaires publiques. L'État, lui, ne s'occupe pas des cultes, sauf, il y avait un historien que j'aime bien, Émile Poula, qui disait « L'État ne reconnaît pas les cultes, mais il les connaît.
» Parce qu'il
a le droit quand même de regard par rapport aux troubles à l'ordre public aussi.
Ouais.
Et puis, le principe de la séparation, c'est aussi que la loi de l'État l'emporte toujours sur les règles religieuses.
Voilà, c'est ça.
On ne peut pas dire que notre foi nous oblige à faire ça. C'est toujours soumis aux lois.
Ouais.
Précision, les grands cultes, les responsables des grands cultes acceptent cette allégeance. Hein,
bien sûr. Ça, c'est une affaire historiquement qui a été réglée, on pourrait dire. Ouais. Vous pourriez nous dire éventuellement quand, mais l'Église catholique tout de suite, elle s'est pliée à l'acceptation de la loi de 1905. Ça lui a fallu un peu de temps quand même.
Non, elle n'a pas voulu tout de suite parce que d'abord, elle perdait de l'argent. Ouais. 1905, c'est d'abord la fin du régime qu'il y avait avant, depuis un siècle.
Concordataire,
oui. Ouais. Et l'État payait, rémunérait des
cultes.
Oui,
exact. Hein.
Quatre cultes, les quatre qui étaient présents à l'époque, donc deux protestants, le catholique et israélite.
D'accord.
Et bah, l'Église qui était dominante, l'Église catholique, elle perdait gros là-dedans parce qu'elle perdait les rémunérations.
Ouais,
et l'État lui a proposé de garder ses lieux de culte comme les autres. Donc tous ont gardé leurs lieux de culte. L'Église a refusé.
Vous vous rendez compte, toutes les églises, etc.
Donc, du coup, il y a eu rupture des relations diplomatiques avec le Vatican.
D'accord.
Et il a fallu attendre les années 20 pour qu'il y ait un accord avec l'Église catholique. Mm-hmm. Mais pendant 20 ans, ça a été un peu compliqué, oui.
Et t'as entendu quand même que l'État français a très vite lâché un peu de lest, c'est-à-dire dès 1908, en accordant, je crois, la possibilité pour la pouvoir publique de prendre en charge un petit peu les établissements religieux catholiques, ce qui enlevait cette charge financière potentiellement terrible sur le dos de l'Église catholique.
Oui, la loi elle a été modifiée tout de suite. Hein. Ouais. On dit la loi 1905, mais en fait, elle a été modifiée dès 1906, 1907 et 1908. Parce que la loi, elle est plutôt modérée. Elle s'est faite contre les extrêmes. Ceux qui voulaient complètement bouffer du curé, transformer les églises en grange à foin ou en salle de bal. Hein. Donc c'est plutôt les radicaux. Émile Combes, par exemple.
Voilà,
Et puis, de l'autre côté, bah, y avait aussi les catholiques qui, eux, voulaient absolument garder leurs privilèges.
Bien sûr.
Et finalement, cette loi, elle s'est faite au centre. Contre ces deux extrêmes, et elle est plutôt modérée, oui.
D'accord, très bien, très bien. Et donc, l'Église catholique, à partir des années 20, commence à accepter ça. J'avais lu quelque part, alors on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais sur la notion de la liberté de conscience, je retrouve ça, j'ai ça quelque part, jusqu'aux années 60, en fait, la notion de liberté de conscience était une hérésie pour l'Église catholique.
Et oui.
Et ils avaient des mots hyper durs.
Et oui, parce qu'on est encore, on est encore de l'Église, ce qu'on appelle l'Église tridentine, c'est-à-dire qui date du 16e, 17e siècle.
Ouais.
Il faut attendre le Concile Vatican II, au tournant de 1960, pour qu'il y ait une ouverture de l'Église catholique.
Ouais,
et c'est seulement à partir de 1960 que les choses s'apaisent. Il faut savoir que les évêques refusent de donner des consignes de vote depuis 1972.
D'accord, c'est récent.
Oui, donc c'est récent, mais c'est après Vatican II. Donc, donc voilà. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle la perte d'emprise du religieux sur la société.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc les gens, même en 1905, il faut savoir que l'Assemblée qui avait voté la loi, il y avait des élections juste derrière, et les députés, ceux qui ont voté la loi, qui étaient pour, ont même été renforcés dans leur...
Donc les Français... Il y avait un vrai soutien, quelque part.
Même catholiques, les Français ont accepté cette loi de 1905.
D'accord.
Donc l'Église n'est pas tout à fait idiote, elle sait qu'elle doit aussi aller un peu dans le vent.
Ouais, ouais. Il y avait une sagesse populaire qui montrait une évolution assez profonde de la société vers cette direction-là.
Oui, c'est ce qu'on appelle les catholiques selon le suffrage universel. C'est-à-dire qu'on veut bien être catholique, mais on a notre liberté de politique.
D'accord, ok, très bien. Ok, donc ça, c'était juste une introduction assez simple, les trois grands principes de la laïcité. On dit souvent que la laïcité à la française, c'est un peu une exception mondiale. C'est souvent présenté comme ça. Moi, j'ai souvenir, il y a quelques décennies, où on disait la laïcité française, il n'y a qu'un équivalent, c'est la laïcité turque. Bon, alors maintenant, depuis 20 ans, avec notre ami Erdogan, ça a changé, je pense. Mais voilà, c'était un peu les deux laïcités assez proches et qui étaient très, très, très différentes, peut-être qui allaient plus loin que les autres formes de laïcité. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant, Jean-Pierre, d'aller se comparer à un autre modèle. Mais plutôt que de choisir les modèles habituels dont on parle souvent, les modèles anglo-saxons, on va s'intéresser au modèle allemand, dont personne ne parle. Enfin, moi, je ne le connais pas du tout, donc ça va être intéressant.
Juste avant de commencer, je précise que les trois principes que je viens d'énoncer, ils sont aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Oui, tout à fait.
Et ils sont dans la Convention européenne des droits de l'homme aussi.
Ouais,
donc, c'est des principes universels.
Et quel que soit. Ils sont fondateurs, du socle de ce que sont nos démocraties.
Et donc,
modernes.
Les trois principes, ils s'appliquent dans toutes les démocraties,
exactement.
Quelle que soit la façon de gérer le religieux.
Ouais.
Et donc, par exemple, pour l'Allemagne, on a c'est la loi fondamentale de 1949 qui dit que finalement les cultes, les églises, on dit les églises mais c'est les cultes, peuvent être intéressants au niveau social. Ils peuvent apporter une aide et donc on a un régime de coopération.
D'accord.
Ils gèrent des hôpitaux, ils gèrent des écoles, mais ils sont aidés pour ça par l'État.
D'accord,
Alors ça, il y a un effet que les gens ne comprennent pas trop. D'abord, il y a des cours de religion dans l'établissement public, j'entends. Alors les gens choisissent le cours qu'ils veulent ou un cours de morale s'ils ne veulent pas de cours de religion.
D'accord.
Tous les citoyens allemands doivent déclarer dans les recensements quelle est leur religion.
Oui, ouais, ça a une énorme différence avec
le système français. Ou s'ils n'ont pas de religion. Et selon leur réponse, ils doivent payer un impôt.
D'accord. Qui va être affecté donc à l'une ou l'autre.
Alors, c'est pas l'État qui reçoit l'impôt. Hein. Il reçoit l'impôt, mais il le redonne aux églises.
Oui, c'est un redistributeur.
C'est 8% des revenus.
D'accord.
C'est un impôt tout à fait officiel.
Et donc, déclarer la religion, c'est pour dire, voilà, moi, je veux que ce soit affecté à telle église.
Voilà, à tel culte. Et ces cultes ont une charge sociale qui est donnée par l'État. Alors, il y avait des Français qui s'étaient établis en Allemagne, et puis ils avaient coché la case catholique sans trop faire attention. Puis un jour, on leur a demandé de payer pour le denier du culte. Puis ils ont dit, bah non. Et puis on leur a dit, bah si. Vous êtes en Allemagne, c'est la loi allemande qui se...
Et si on se met sans religion, on ne paye pas alors en Allemagne
Alors, on a une caisse pour des œuvres qui est...
un peu l'équivalent en
oui.
Tout le monde financièrement parlant.
Oui, oui, ça marche pas pour
sinon,
payer
ce serait trop facile. Tout le monde se met sans religion, on ne paye plus.
Donc, c'est ce qu'on appelle le système de coopération des cultes.
D'accord. Hein,
de coopération
bien.
Entre l'État et les cultes. Mais attention, c'est que les cultes les plus importants.
D'accord.
Donc, islam, judaïsme, protestantisme, catholicisme, bouddhisme. Mm-hmm. Donc, pas tous les cultes.
Ouais,
et ce qui pose un petit peu un problème au niveau européen. Alors, la Cour européenne a jugé que c'était quand même respectueux, puisqu'on respectait la liberté de culte. Mm-hmm. Et finalement, ils ne sont pas favorisés. C'est plutôt qu'ils viennent aider l'État. Dans certaines tâches. C'est un peu la même chose d'ailleurs au Royaume-Uni ou en Belgique aussi.
D'accord, très bien. Une petite chose, alors quand vous dites donc ils co-gèrent entre guillemets certains hôpitaux, certaines écoles, nous on a eu ce changement majeur en 59 avec la loi Debré, donc qui autorise le financement par l'État des écoles privées. Donc là il y a eu un petit pas vers, même si c'est juste un pas, c'était pas une direction nouvelle, vers ce type de fonctionnement.
Il y a eu un petit pas, puis il ne faut pas oublier qu'il y a un endroit en France où ce régime allemand s'applique, hein, c'est l'Alsace-Moselle.
Oui, tout
à fait. On dit Alsace-Lorraine, mais c'est Alsace-Moselle.
D'accord.
Parce que l'Alsace-Moselle en 1905 n'était pas française, elle était allemande.
Bien sûr, bien sûr.
Et quand il s'agit en 1918 de ramener l'Alsace-Moselle dans le giron français, on a ce qu'on appelle le droit local, alors qu'il n'est pas que religieux, hein, c'est aussi pour les commerces, c'est aussi pour le journal officiel, pour la sécurité sociale, beaucoup de choses. Mm-hmm. Et les députés ont décidé de laisser le droit local en Alsace, parce que sinon ça allait faire de gros problèmes.
Ils risquaient en fait une sorte de colère populaire, etc.
Voilà,
ils voulaient éviter ça.
Il y a quand même pas mal d'avantages sur tous les plans.
Ouais.
Et puis ça a été reconnu que le droit local, en ce qui concerne les cultes, le Conseil constitutionnel a reconnu que les trois principes étaient respectés.
D'accord.
Donc finalement, on pouvait laisser ce droit local au niveau religieux.
Ça ne contrevient pas aux principes fondamentaux de la laïcité.
Le petit truc qui a changé, c'est qu'il faut, c'est au niveau du choix des cours de religion. Par principe, on n'impose pas les cours de religion.
Voilà.
On doit s'inscrire. Alors qu'avant, il s'était imposé.
Petit
changement. Et il n'y a plus de blasphème.
C'est son importance.
Il n'y a plus de droit au blasphème en Alsace-Moselle, alors qu'avant, il y était.
D'accord.
Comme en Allemagne.
Attendez. Vous dites qu'il n'y a plus de droit. C'est-à-dire que le droit au blasphème, le blasphème n'est plus interdit ou est-ce que c'est le contraire ?
Non, c'est le contraire. En Allemagne, le droit au blasphème existe toujours, comme il existait en France au 19e siècle.
D'accord.
Et avec la loi de 1905 et d'autres lois des années 1880, en France, il a été supprimé.
Voilà.
Mais en Alsace-Moselle, il avait été maintenu parce que c'est le droit allemand.
D'accord.
On avait un peu oublié de l'enlever d'ailleurs, mais il n'était jamais appliqué.
Ça veut dire qu'on pouvait être attaqué pour blasphème en Alsace-Moselle ?
On pouvait être attaqué par blasphème. Il y a d'ailleurs des associations qui ont essayé.
D'accord.
Mais dans la pratique, les juges n'allaient pas jusqu'à la condamnation. Et puis, très récemment, je crois que ça fait 10 ans, on a rayé d'un coup de plume
droit au blasphème,
qui de toute façon n'était pas appliqué.
D'accord, très bien. Ok, donc c'était un petit exemple d'un autre modèle, mais on voit que malgré tout, les différences ne sont pas immenses, parce que voilà, les fondements, comme vous l'avez dit, sont...
C'est une différence de gestion.
Oui, d'accord, très bien. Alors, on va faire une première petite pause musicale. Nous allons écouter un groupe américain. C'est parti Mathieu. I thought that I heard
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Écoutez Poker Menteur sur Calade, notre émission mensuelle est consacrée à la laïcité. Nous venons d'entendre REM, Losing My Religion, chanson piège, parce qu'en fait elle ne parle pas du tout de religion, mais notre invité Jean-Pierre Chantin l'avait choisi pour son amour de la musique anglo-saxonne. Jean-Pierre Chantin est notre invité, spécialiste de la laïcité. Nous sommes en train de parler un petit peu de ce vaste concept dans le cadre français, mais pas uniquement. Et d'ailleurs, maintenant nous allons nous intéresser à... On va retracer un petit peu quelques événements de ces 50 dernières années, pourrait-on dire, hein, qui concernent la laïcité, qui ont touché. Alors, on commence par quoi, Jean-Pierre ?
Je sais pas, je sais. Il y a un tournant, en fait, c'est les années 70.
Ouais.
Parce que jusqu'aux années 1970, les sociétés sont pas... Sur certains points, elles se chauffent un peu. Mm-hmm. Sur quelques points religieux, l'école, par exemple, après la loi Debré...
Bien sûr, en 59, qu'on a évoqué tout à l'heure.
Qui est à 90% catholique.
Bien sûr.
Donc là, il y a eu des petites frictions. Mais enfin, mm-hmm. globalement, il n'y avait pas eu grand-chose. Mm-hmm. Et puis, il y a eu un tournant dans les années 1970.
Ouais.
On est dans des périodes de crise économique et sociale, d'effondrement mm-hmm. des grandes théories politiques. Notamment
oui, totalement. On est dans une décennie de changements profonds.
Ouais. Et il y a un livre alors, que je trouve fondamental, c'est le livre de Gilles Kepel, qui s'appelle La Revanche de Dieu.
D'accord.
Et qui montre que dans ces années 70, apparaissent ou réapparaissent sur le devant de la scène toutes les extrémistes intégristes de toutes les religions. Alors là, il n'y a pas d'exclusive. Hein. Mm-hmm. Alors intégriste, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'ils pensent que la religion doit intégralement guider la société.
D'accord.
Ça veut donc dire que le politique doit se soumettre à la religion.
Ah oui, bien sûr. Si c'est intégralement, le politique doit être soumis.
Alors, 1979, pour rappeler des mauvais souvenirs, c'est...
la révolution iranienne, je présume que c'est ça que vous évoquez.
Et la fatwa de Salman Rushdie,
par exemple. Oui, la fatwa par le...
Mais 1977, on avait aussi la prise de Saint-Nicolas du Chardonnay par des proches de Mgr Lefebvre, des extrémistes catholiques, intégristes catholiques, la fraternité.
Catholique, voilà, de l'époque.
C'est pas la fraternité Saint-Pédis, mais bon, c'était presque mm-hmm, pareil. Mm-hmm. Et il l'occupe toujours d'ailleurs aujourd'hui illégalement. Mm-hmm. Vous avez les mouvements extrémistes juifs qui s'expriment, les mouvements hindous en Inde qui commencent à s'exprimer de manière
violente.
C'est
étonnant, cette résurgence. Moi, j'ai souvenir, j'étais ado, j'ai même gamin dans les années 70, mais à la fin des années 70, j'étais ado, je commence à m'intéresser au vaste monde. Et c'est là qu'on a commencé à ressentir qu'il y a un basculement entre dans la pensée des libérateurs des pays en développement. Hein, cette pensée était structurée par le marxisme et petit à petit, soudain, le marxisme va être effacé et remplacé par ce retour au religieux comme élément de libération.
Oui, oui.
C'est vraiment très étonnant et ça va se faire très vite. Hein,
alors, élément de libération ou comme élément d'identité.
Oui, aussi, bien sûr.
Finalement, le marxisme, ce n'était pas un élément d'identité, c'est un élément d'identité international.
Ouais, ouais.
Alors que là, certains pays ont retrouvé une identité par le religieux.
Ouais, ouais. Et puis, enracinement spécifique local beaucoup plus fort et c'est peut-être ça aussi qui a fait sa
puissance. Parfois réinventé, parce que je pense notamment à des pays musulmans, c'est un islam saoudien, c'est pas l'islam ni algérien, ni marocain.
Totalement,
Donc c'est dû...
Et on voit Daesh qui va faire un genre de storytelling sur une histoire complètement fantasmée.
Oui, voilà. Donc c'est de la réinvention. Ces traditionnalistes ou intégristes, ils reprennent la religion à leur compte, mais ils l'adaptent. Donc c'est pas tout à fait... c'est mieux intégrisme que traditionnalisme. paternalisme d'ailleurs, parce qu'ils rompent un petit peu avec ce qui s'est fait avant. Ouais. Notamment, on a des religions qui sont tolérantes. Enfin, toutes les religions, la base, c'est quand même la tolérance, l'acceptation des autres. Je rappelle que les musulmans, pendant des siècles, ils ont toléré, c'est-à-dire qu'ils les acceptaient avec des réserves, mais ils acceptaient quand même toutes les religions. Les juifs expulsés d'Europe, ils sont réfugiés dans les pays musulmans.
Oui, tout à fait.
Donc, par exemple. Donc, ça veut dire que ces intégristes des années 70, de catholiques à juifs, en passant par hindous et tout ce que vous voulez, ils ont quand même quelque chose d'un peu nouveau et de violent.
Oui, oui, tout à fait.
Donc là, il y a le tournant, c'est vraiment
un tournant. Il y a ce tournant-là comment dire, qui va impacter les décennies qui vont suivre. Au début, on a peut-être pas conscience à quel point ça va impacter durablement les 40 ans qui suivent,
c'est
la fin des années 70.
Alors là, pour le coup, la France est impactée encore plus parce que le religieux n'avait pas vraiment d'importance. À part, il y avait un autre de mes dadas, il y avait des petits débats sur les sectes, la secte Moon, etc. Mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose sur le religieux. Mm-hmm. Et tout d'un coup, que ce religieux revienne sur le devant de la scène, revendicatif et même provoquant, il y a eu un clash en France parce que... on n'était pas habitué. Je crois que c'est là où ça a plus frictionné, alors que Royaume-Uni, Allemagne, le religieux n'a jamais vraiment disparu.
Il y a une tradition sociétale un peu communautaire, on va dire. Donc ça n'avait pas disparu à cause de cet enracinement communautaire.
Non, et puis les églises avaient leur place.
Il y avait aussi ça.
Et puis un espèce d'anticléricalisme français
qui n'existait pas historique. Dans d'autres pays. Ouais.
Donc mais ce religieux qui s'exprime, ça gênait. Donc c'était nouveau.
D'accord. Donc on passe à d'autres éléments que, mis à part ça, qu'est-ce que vous nous proposez ? On peut éventuellement sauter 10 ans, parler de l'affaire en 1989, une affaire de foulard dans je ne sais quel lycée et qui va donner lieu à une circulaire, dites la circulaire Jospin, vous nous expliquez tout ça ?
Oui, 10 ans, c'est le temps de macération en fait, tout simplement. Je précise aussi que ça va se focaliser sur l'islam, parce qu'on est au moment du regroupement familial, c'est 75 je crois, la loi sur le regroupement familial, et que donc on a beaucoup plus de familles qui viennent s'installer et qui viennent rester. Alors qu'avant, on a surtout des hommes qui étaient là.
Qui avaient vocation à repartir, en tout cas dans leur tête, ils se disaient « je vais repartir », etc.
Alors, au niveau gestion de l'islam, il n'y avait pas de souci, puisqu'il y avait des salles qui étaient prévues, il y a même des églises qui ouvraient des salles pour les musulmans. Enfin bon. Sauf qu'on a des intégristes, donc là, pour le coup, qui ont joué la provocation. D'accord. Et qui ont envoyé, le lycée en question, c'est à Creil.
Creil, voilà, c'est
1989. Ça. 1989. Trois filles qui se présentent avec un foulard sur la tête.
À l'entrée du lycée ou collège, je sais plus.
Sauf qu'il y en avait
200
dans toute la France, en même temps.
D'accord. Hein,
c'est pas que trois filles, mais on en a beaucoup parlé. Okay. Et le proviseur se trouve démuni, parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. Parce que là, c'est une expression religieuse virulente et une vraie revendication.
C'est une nouveauté, on n'avait jamais vu ça.
Non. Et puis surtout ce côté revendicatif. À la limite, si ça avait été juste une tradition vestimentaire, on faisait comprendre qu'on les enlevait, il n'y a pas de souci. Mais là, il y avait le refus des jeunes filles, parce qu'elles étaient dans une démarche militante, impulsée par leur grand-mère d'ailleurs. Par la grand-mère
mouvement religieux ? C'était, les salafistes, parce qu'à l'époque, on n'entendait pas parler de ces mouvements-là.
Non. On les appelait les intégristes, mais c'était des mouvements liés aux frères musulmans.
Déjà, donc, ils avaient une implantation en France.
Les frères musulmans, ça date des années 1920.
Je parle de l'implantation en France. Je sais qu'ils sont assez anciens. Mais...
Si. C'est une mouvance, les frères musulmans.
Bien sûr.
Donc, c'est dans cette mouvance-là. Et puis, on a un deuxième mouvement aussi, mais c'est parce qu'ils étaient assez récemment arrivés, c'était les mouvements turcs. Qui, pour s'installer dans la communauté, il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient les plus revendicatifs au niveau de l'identité. Ouais. Et on a aussi des mouvements turcs en parallèle qui se sont fomentés. Donc le proviseur reçoit les jeunes filles, les parents, il ne sait pas trop quoi faire. L'affaire prend de l'ampleur.
Ça monte en mayonnaise médiatique, on va dire.
Je passe les détails. Ouais. Et donc Lionel Jospin prend une décision, prend une circulaire qui est très très mauvaise. Il dit que les enseignants doivent juger au cas par cas.
Ah, c'est ça la circulaire Jospin.
C'est ça.
Démerdez-vous, quoi.
Qui est pas. Donc, ça laissait un peu la balle dans le camp des enseignants.
Ouais.
Bon, le cas par cas, bon, voilà. Et on oublie, mais il y a une circulaire Bérou aussi, en 1994, qui dit qu'il faut interdire les signes, sauf les signes discrets, sans qu'on sache vraiment ce que sont les signes discrets. Enfin, on a un flottement.
C'est une première tentative d'aller au-delà de la circulaire Jospin, mais qui n'est pas une grande réussite.
Voilà, en fait, on a un flottement au niveau de l'État, tout parti confondu, mais
Bon, ils ne savent pas trop sur quel pied danser.
Voilà, et puis surtout, ils ne consultent pas les chercheurs qui travaillent là-dessus.
D'accord.
Ce qui est un peu dommage.
Bah
et,
ouais.
Et qui sont payés par l'État, d'ailleurs, mmh. Entre parenthèses. Mmh. Ce qui fait qu'on est obligé d'arriver à une loi, et c'est cette fameuse loi de 2004.
D'accord. Oui, porte... il faut 10 ans après, après
10
la
ans,
circulaire ouais. de Bérou. Hein,
c'est ça. Il
faut 10 ans. Ça prend du temps à maturer.
C'est ça. Et la loi de 2004, elle met les choses au point. Donc c'est simple. Hein. Les élèves ont le droit d'avoir des signes religieux. Je précise que les enseignants n'ont pas le droit, hein, puisqu'ils sont fonctionnaires de l'État.
Bien
donc
sûr.
Comme tout enseignant, aucun signe n'est inacceptable.
Ouais,
mais les élèves peuvent avoir un signe discret, sans souci, et même le montrer. Hein. Ils peuvent même parler de religion s'ils ont envie. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'ils en fassent un usage prosélyte. Et donc, c'est le fameux... Alors, les gens disent ostensible, mais en fait, ce n'est pas ostensible. Il faut que les signes ne montrent pas ostensiblement une appartenance religieuse, c'est-à-dire d'une manière revendicative.
Mmh.
Et là, c'est plus facile, parce que si j'arrive avec un foulard...
Bah ça se voit, quoi. Hein. C'est facilement ostensible. Hein,
c'est vraiment une façon de montrer son engagement
ouais,
religieux
ouais, tout à fait.
Ou une grande croix. Je précise qu'il y avait une loi de Jean Zay de 1936 qui disait déjà qu'on n'avait pas le droit de manifester de manière trop voyante son appartenance religieuse et son appartenance politique.
Oui. Enfin,
on l'a oublié, mais... Donc finalement, c'est vrai,
ils ont été piochés dans la... Enfin, dans le souvenir de Jean Zay, la solution trouvée en 2004.
Et donc voilà la loi qui concerne vraiment quelque chose de religieux, parce qu'il y a aussi...
Cette loi a été assez critiquée au niveau international.
Alors,
hein. Vraiment, elle a été mal considérée, enfin mal vue, quoi, on pourrait dire, par un certain nombre de pays.
Alors, puis même mal comprise, hein, pour avoir fait des colloques dans plusieurs pays, il y a même des collègues qui comprennent pas. En fait, c'est une conception française que l'école est un sanctuaire. On est dans un espace où on forme des esprits et on doit les former à partir de leur identité, mais ils doivent abandonner une partie de leur savoir inculqué de l'extérieur pour pouvoir s'ouvrir à tout. Et il y a un collègue qui disait allez au Royaume-Uni où c'est exactement l'inverse. Hein, en fait, tous les élèves viennent avec leur bagage, leur savoir, leurs revendications. Et tout ça empêche qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour qu'on puisse apporter un autre discours.
Hein,
c'est un peu, lui, comparé avec un saloon. Il disait, le saloon en France, on laisse les armes à l'entrée. Le saloon au Royaume-Uni, notamment, on rentre avec les coltes à l'intérieur.
Ouais. Et on tire dans le tas si ça nous déplaît.
Voilà.
Ouais, c'était une bonne
donc,
image.
Dans l'esprit de formation, cette loi de 2004, finalement, elle vient confirmer ce qui se faisait déjà avant.
D'accord. D'accord, très bien. Alors, j'avais noté, je ne sais pas si vous voulez en parler, un dernier point, parce que c'était une loi importante, une des dernières, historiquement, la loi de 2021, dite loi séparatisme, qui a aussi des incidences sur toute la thématique de la laïcité.
Oui.
En quoi elle consiste, cette loi ?
Alors, c'est pas la loi séparatisme. Enfin, on dit séparatisme.
Ouais,
c'est la loi confortant les principes de la République.
D'accord.
Alors, elle n'est pas religieuse. Hein. Elle parle de beaucoup de choses. Mm-hmm. Le seul aspect au niveau religieux, c'est à propos des associations cultuelles.
Ouais.
Donc, associations cultuelles, c'est celles qui gèrent un culte.
Voilà.
Et que un culte.
Oui, oui.
S'ils veulent faire de l'enseignement, s'ils veulent faire autre chose, c'est une autre association.
C'est pas le même statut.
Donc, elles gèrent que le culte. Et ces associations cultuelles, leurs finances sont, donc par cette nouvelle loi de 2021, leurs finances sont contrôlées.
Voilà, il y a plus de surveillance.
Quand,
voilà.
Alors,
et pour les comptes à rendre, on va dire.
Alors, pour les dons qui viennent de l'étranger et qui dépassent 10 000 euros.
D'accord.
Donc, ça laisse quand même un peu de marge.
Ouais, tout à fait.
Parce que, justement, pour contrôler les financements des... disons-le, du Qatar, par exemple.
Oui, voilà, des financements par des puissances étrangères, et surtout qui ont une conception d'un région musulmane
qui financent les frères musulmans, hein, c'est le Qatar et la Turquie.
Voilà. Ouais. Donc, c'est ce système d'influence... par ce biais-là, sur la religion musulmane en France, qu'on essaie de contrôler à travers cette loi-là.
C'est ça, pour les associations culturelles. Et on essaye surtout de faire en sorte que ces associations culturelles soient des associations françaises, enfin pour des gens français, et pas des officines de diffusion, de propagande étrangère qui jouent sur un peu des tableaux qui ne sont pas tout à fait religieux, hein, qui sont plutôt politiques.
Est-ce qu'elle est efficace, cette loi ? Est-ce qu'elle a permis vraiment de... Enfin, c'est récent en même temps, hein, c'est peut-être un peu court pour... porter un jugement, mais de vraiment d'améliorer le contrôle de ça.
Alors oui, pour le contrôle, ça marche, surtout que c'est les préfets qui sont chargés de faire ça. Il y a aussi autre chose, c'est que les préfets peuvent faire un recours. contre les collectivités locales si elles ne respectent pas la laïcité. Et c'est arrivé contre Grenoble dans l'histoire des piscines où, où des femmes... Alors, c'est pas parce que le maire de Grenoble a fait des créneaux pour des femmes voilées, enfin en burkini en l'occurrence, c'est parce qu'il a fait droit à une association religieuse. Et donc, un élu ne peut pas donner, faire droit à une association qui milite pour quelque chose de religieux.
Bah là, on est dans les bases de la laïcité.
Et c'est en ça, avant d'attendre la décision du Conseil d'État, eh ben, le préfet peut intervenir tout de suite. Ça évite que les situations se pourrissent. Donc ça, c'est arrivé.
Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une nouvelle partie. Maintenant qu'on a vu un petit peu les événements marquants de ces 50 dernières années, on va passer à des mouvements plus radicaux qui, et ils sont pas si nombreux que ça, qui nient vraiment ou refusent le principe de la laïcité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mouvement qui correspondent à cette définition-là?
Alors, on reste encore sur tout ce qui est intégrisme, hein, puisqu'ils veulent que la loi, que leur loi s'impose, qu'elle s'impose contre la loi française. Bon, tous les mouvements intégristes, normalement, sont pour l'abolition de la loi de 1905. Bon, il se trouve qu'actuellement, les mouvements intégristes juifs, catholiques, protestants, les fondamentalistes, hein, par exemple, protestants, en France, actuellement, ils ne sont pas très, très, très virulents.
Pas très nombreux, pas très représentatifs.
Même si je surveille un petit peu tout ça, il n'y a pas franchement d'écrits ou de revendications, parce qu'ils voient que ce n'est pas... C'est pas dans l'air du temps.
Ils trouveront pas des troupes pour soutenir ce type de combat.
Non. Par contre, ils le feront aux États-Unis, par exemple. Ils vont soutenir aux États-Unis des campagnes contre la loi de 1905 en France.
Ah oui, d'accord.
Voilà, les fondamentalistes protestants, par exemple.
Ah oui, d'accord. Incroyable.
Alors ça, oui. Ou les orthodoxes russes, mais dans une politique de déstabilisation de la France, avec Vladimir Poutine, par exemple. Les seuls qui actuellement réclament l'abolition de la loi de 1905, hein, c'est les groupes extrémistes musulmans.
D'accord.
Alors les groupes extrémistes, hein, pas les musulmans en général.
Oui, bien sûr.
Oui.
Donc vous les avez cités, il y a les frères musulmans,
c'est les frères musulmans, les salafistes, d'autres groupes pakistanais qui sont pas très connus, le Tablir par exemple, qui est pas très connu mais qui est très présent, qu'on voit beaucoup dans la rue parce qu'ils ont des tenues très voyantes, mais et eux par exemple, ça fait partie de cette mouvance qui avait enlevé Georges Malbruno, le journaliste, et
dans les années 90,
et dans les revendications il y avait l'abolition de la loi 1905.
D'accord.
Donc voilà, là on est vraiment dans une lutte pour abolir la loi de 1905, même si j'ai l'impression que les mouvements musulmans ont changé et font plutôt de l'entrisme. Ils essaient plutôt de la faire modifier en leur faveur.
D'accord.
Et donc ils rejoignent un autre mouvement qui, lui, dont on va parler d'ailleurs. Voilà, donc ils sont plus
subtils.
Plus subtils.
Plutôt qu'un combat frontal perdu d'avance, essaie de modifier de l'intérieur le système.
Et de dénigrer le mouvement à l'étranger. Hein, parce que par exemple, j'étais au Sénégal, il y a des mouvements extrémistes, alors qu'ils ne sont pas sénégalais, mais qui essayent de s'implanter au Sénégal.
Ouais. Hein,
le Sénégal, c'est musulman, mais un islam sénégalais particulier. Il y a des mouvements wahhabites et salafistes qui s'implantent et qui montrent, qui disent, mais regardez, la loi de 1905 et la loi, sur le voile de 2004, etc. Des lois qui sont contre l'islam.
C'est un terreau qu'ils essaient de fertiliser en Afrique, hein, contre, alors, sachant qu'il y a déjà toujours l'histoire coloniale qui fait qu'il y a des tensions potentielles assez facilement inflammables.
Oui. Mais dans le prochain Moyen-Orient, il n'y a pas ces tensions coloniales aussi.
Ouais, ouais, aussi. D'accord.
Et c'est ressorti au moment de Charlie Hebdo. C'est
un vrai travail de fond international.
Oui, oui.
D'accord, très bien. Ok, donc ça se centre beaucoup sur les mouvements intégristes musulmans, en quelque sorte.
Bien sûr.
Ok, très bien. On va faire une deuxième pause musicale. Nous allons écouter cette fois-ci Alain Souchon. C'est parti, Mathieu.
Poker menteur.
Galade.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. Inquirez. sonne. Et si en plus il n'y a personne. Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne.
Poker Menteur sur Calade pour cette dernière mission de 2022. Nous parlons de la laïcité avec notre invité Jean-Pierre Chantin. Nous venons d'écouter Choix de Jean-Pierre, la fameuse chanson d'Alain Souchon que peut-être certaines jeunes générations ne connaissent pas, honte à eux. Et si en plus il n'y a personne. Belle chanson, assez provocatrice, hein, après l'évocation donc, des négateurs de la laïcité. Chanson hardie, hein, j'ai trouvé dans son fond,
oui,
dans ce qu'elle raconte. Hein.
Oui, vous vous rendez compte, s'ils font tout ça, dont se faire sauter, etc.
Et si tout ça, c'est pour rien.
Il n'y a pas de Dieu, donc...
Ouais. Une chanson assez forte, hein, assez forte. Dans cette dernière partie, avec Jean-Pierre, nous allons parler des différentes perceptions de la laïcité. La laïcité, c'est aussi une thématique d'une telle richesse qu'elle appelle des visions qui peuvent avoir des petites différences en quelque sorte. Donc on va essayer d'explorer un peu ces différentes visions de la laïcité qui existent. Alors je vous laisse, Jean-Pierre, complètement libre. Allez-y, vous commencez par quoi?
En fait, je vais un peu expliquer. C'est pas parce que vous avez un tournevis que tout le monde l'utilise de la même manière.
Exactement, voilà.
Et donc là, il y a la loi. Bah, c'est la loi, hein, elle ne change pas. Uh-huh. Mais en revanche, il y a plusieurs façons de l'envisager ou de faire en sorte qu'elle fonctionne.
D'accord.
Donc c'est ça, les différentes perceptions. Il y a un historien qui s'appelle Jean Bobéro, et sociologue, qui avait écrit un livre sur les 7 laïcités. Il s'est fait taper dessus en disant qu'il n'y en a qu'une. Mais non, mais ce n'est pas ce qu'il disait. Il disait qu'il y avait différentes perceptions.
Les interprétations, les perceptions, les façons de vivre.
Et puis aussi des intentions politiques.
Bien sûr.
Il y a aussi une façon d'utiliser la loi. Voilà. Mm-hmm. Donc, pour l'émission, pour simplifier, j'en ai mis que 4. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Alors, il y en a une première qu'on va appeler multiculturaliste.
D'accord.
Ou communautariste. C'est un
d'accord.
peu. Ils ne se donnent pas vraiment de nom. Hein. Mm-hmm. C'est ceux qui pensent que la loi ne doit pas être trop dure avec les groupes religieux, avec les communautés religieuses, et que finalement, il faudrait leur donner un peu plus de liberté, parce que sinon, on va les opprimer. Mmh. Alors, c'est un discours qui est plutôt à gauche, même plutôt de gauche extrême. Mmh. Il a un modèle qui est le modèle anglo-saxon.
C'est plutôt le modèle anglo-saxon, ouais. Voilà, alors, notamment anglais également.
Alors, anglo-saxon, ça va loin parce que, les, par exemple, les religions, enfin, chaque groupe religieux a son propre tribunal religieux et les décisions du tribunal religieux l'emportent.
Mais vous parlez en Angleterre, ça ?
Oui. Ils sont reconnus par l'État. Incroyable. Par exemple, quand si un tribunal religieux d'une religion décrète la fin d'un mariage, eh ben, la décision s'applique.
Wow. Voilà.
Donc, bon, alors, les communautaristes ne veulent peut-être pas aller jusque-là, quoique j'en sais rien.
De toute façon, ils savent que s'ils demandent trop, il y aura un levé de bouclier. Voilà. Donc après, je pense qu'ils vont demander moins. Mais
donc c'est ce qu'ils appellent laïcité ouverte.
Aller vers cette philosophie plutôt anglo-saxonne. Quoi.
Voilà. Mmh. Alors bon, donc c'est, par exemple, si les gens connaissent, mais Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadenne, qui ne sont pas des extrémistes non plus, mais La France Insoumise est dans cette démarche-là.
Qui compte dans ses membres, pas mal de...
Mais avec un propos politique aussi, c'est une façon d'attirer un vote musulman.
Oui, ça peut être utile aussi. Voilà. D'ailleurs, la France Insoumise est assez efficace, entre guillemets, dans le vote des quartiers.
Eh oui, voilà. Donc
peut-être qu'il y a un lien aussi avec ça.
Certainement. Il y en a qui l'ont même affirmé de manière assez claire. Donc, ce côté communautariste qui est dénoncé parce que, par d'autres, qui disent que c'est dangereux, parce que si on donne trop de droits à toutes les religions, il y aura des droits particuliers et le droit commun sera mis en défaut.
Bah, disons que là, on risque d'affaiblir la spécificité de la laïcité française.
Et puis, je rappellerai juste que ce n'est pas parce que le régime est communautaire au Royaume-Uni qu'il n'y a pas eu d'attentats.
Ils ont eu des attentats extrêmement violents aussi.
Ça n'empêche pas.
Y a pas de souci.
Enfin bon, c'est la vieille idée de est-ce qu'on contrôle les libertés, plus ou moins. Enfin,
d'accord.
Donc il y a cette première famille.
D'accord.
Il y en a une autre qui s'est constituée en réaction à celle-là, finalement. C'est exactement ça, qui dit qu'il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. C'est ceux qui prônent une liberté républicaine, donc la liberté avec des limites. Alors, c'est représenté par le mouvement qu'on appelle le Printemps républicain, que les gens n'identifient pas trop, d'ailleurs. Ils ne savent pas trop ce que
non,
c'est.
Non, il n'est pas très connu. Il a été fondé par des membres, globalement, de l'ex-PS. Enfin, chez l'ex, ils ne sont pas encore morts, mais bon.
Ouais.
Du PS du temps, ils existaient encore,
il y a 10 ans. C'était des socialistes. actuellement, il y a Gilles Clavel, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Et le président, c'est Amin El Kapti, du Printemps républicain. Alors, eux, c'est vraiment... Il y a danger. Il faut défendre la vie en commun et pas les communautés. Et pour défendre la vie en commun, il faut qu'on soit très attentif pour respecter les lois de la laïcité, la loi de 1905 et les autres lois. Pas de concession. L'application doit être stricte. Sinon, le bien commun va se perdre.
D'accord.
Alors, ils sont assez vigilants dès qu'il y a un petit peu des propos qui vont dans un centre communautaire pour rappeler à l'ordre en disant ça va pas. Donc, ils sont en débat complet avec les communautaristes. Hein, là. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas toujours grand chose parce que.
C'est intéressant, c'est que les deux qu'on vient de citer sont plutôt. Enfin, ils sont dans le camp de la gauche, quoi. Voilà.
Oui, c'est pas
la même gauche, évidemment, mais malgré tout, on voit qu'il y a.
Oui,
à l'intérieur de la grande famille de la gauche.
Ah oui, tout à fait. Alors, Printemps républicain, ils vont aussi sur le centre-droit.
Oui.
Il y a aussi des gens du centre-droit. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas politiquement engagés, mais des chercheurs ou des journalistes.
Moins marqués politiquement.
Qui n'ont pas de présupposés politiques. Le troisième groupe, alors là, c'est un groupe complètement politique. C'est une laïcité d'identité nationale. La laïcité, ça permet de garder nos valeurs. Nous sommes une France chrétienne, mais la liberté, elle est chrétienne. Il développe même un discours comme quoi les grandes idées de la laïcité étaient déjà appliquées dans l'Église catholique, etc.
Alors j'ai lu dans un livre qu'ils appelaient ça la catho-laïcité, c'est-à-dire une sorte d'embrigadement la laïcité dans une sorte d'idée que le catholicisme a engendré la laïcité naturellement. Sous-entendu, la religion musulmane ne peut pas s'y intégrer.
Alors, pour l'histoire du catholicisme qui avait les valeurs auparavant, comme tout en histoire, ça se discute, on peut dire oui et non, c'est vrai, et puis il y a des choses non, mais il y a aussi du vrai quand même, hein. C'est
bien
pas
sûr.
Tout à fait idiot. Et là, c'est plus le Rassemblement National actuellement, le Front National s'en occupait pas tellement de ces histoires, mais c'est plutôt le Rassemblement National,
à
tel point qu'à un moment, il n'y avait que Marine Le Pen qui parlait de laïcité, notamment quand il y a eu les affaires de Charlie Hebdo, etc., et Elisabeth Badinter, dans une espèce de provocation, avait dit « mais attendez, écoutez bien qui est-ce qui parle de laïcité maintenant, il n'y a plus que Marine Le Pen. » Tout le monde lui est tombé dessus, mais elle avait un peu raison. Elle avait un peu raison.
C'était un changement stratégique majeur du Front National quand Marine Le Pen a pris le pouvoir, entre guillemets, au début des années 2000, où elle a vraiment changé d'axe et elle a eu une vraie efficacité hein, pour d'abord dédiaboliser son parti et puis partir sur des nouvelles thématiques extrêmement fortes.
Et puis c'est un axe identitaire.
Mais
c'est
clairement, on est d'accord que c'est de l'instrumentalisation de la laïcité. Hein,
ah, puis clairement,
on voit les ficelles quand même.
Et puis xénophobe. Enfin, en l'occurrence,
pour faire passer un discours
raciste,
anti-musulman.
Hein, pas raciste, parce que les gens emploient des termes à tort et à travers, mais c'est xénophobe.
Mais un discours anti-musulman, clairement.
On est français, alors anti-musulman, quoique, parce qu'il y a des bons musulmans aussi au Rassemblement National. C'est ceux qui, justement, acceptent la nationalité, etc. Mm-hmm. Donc, mais xénophobe, sûr. Des gens qui viennent de l'étranger, ils ne peuvent pas connaître nos principes, ils vont même tuer nos valeurs. Mm-hmm. Donc là, on est sur un discours qui est insidieux, hein, mais qu'on entend quand même pas mal.
Ouais.
Et
d'accord.
Puis la quatrième, alors on ne l'entend pas beaucoup en ce moment, mais bon, elle a beaucoup existé, c'est l'anti-religion, c'est-à-dire que la laïcité, c'est pour bouffer du curé. Parce que c'est surtout anti-catholique d'ailleurs.
C'est donc la religion est l'ennemi.
La religion c'est l'ennemi.
Quelle qu'elle soit la religion.
Donc grâce à la laïcité, ce qui montre qu'ils n'ont peut-être pas trop bien lu la loi, hein, parce qu'on commence quand même par la liberté des cultes et la liberté de conscience. Mais voilà, la religion doit être éradiquée et la laïcité, c'est un moyen d'éradiquer la religion.
Alors vous vouliez citer un courant qui n'est pas très connu, qui exprime ce type de c'est la libre-pensée, c'est
ça ? La libre-pensée. Alors les libre-penseurs, c'est un mouvement du 19e siècle très actif au moment de la loi. Ça fait partie justement de ces extrémistes qui, pendant la loi, voulaient qu'on aille danser dans les églises.
Est-ce qu'ils existent encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des...
Toujours.
Je pense un petit peu à la franc-maçonnerie en termes de type de mouvement, non ? C'est pas
non,
assez...
Du
non,
tout.
C'est différent.
Non. La libre-pensée, c'est vraiment un mouvement anti-religion, un mouvement très politique, clairement politique.
D'accord.
Et on les voit dans quelques affaires locales quand ils s'opposent, parce qu'il y a un maire qui bouge une croix. Et il la met sur le domaine public et on n'a pas le droit de mettre. Si elle y est, on ne la touche pas.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais là, il y avait une histoire en Vendée, il y avait une croix dans un endroit privé, mm-hmm. et puis il l'avait déplacée, il l'avait mise sur le trottoir, domaine public.
Et, ouais. la loi dit niet.
Là, la loi, elle dit non. Mm-hmm. Mais c'est les libre-penseurs qui sont montés au créneau, mais pas tellement pour les défendre la loi 1905, mais pour contrer ces catholiques qui veulent être tout le temps présents et s'immiscer dans la société.
Donc on est d'accord que c'est pas un mouvement, qui recueille. Il y a pas un mouvement de fond dans la société qui correspondrait à ça. Hein, je trouve. Ça reste un mouvement assez isolé, quoi, quelque sorte.
Pas national, mais au niveau local, oui.
Ah, niveau local,
au niveau local,
locale.
C'est un mouvement qui est assez présent, qui organise des réunions, et puis qui a des coups de poing, des actions de coups de poing.
D'accord.
Donc c'est plutôt local, mais ça se voit pas tellement au niveau national, non.
D'accord, très bien, ok. Donc on a vu les quatre grandes familles, différentes familles de laïcité, enfin une façon de voir la laïcité en quelque sorte. Donc on arrive au terme de ce parcours sur la revue de ce qu'est cette valeur, la laïcité, valeur, cette pratique, enfin c'est difficile à définir en tout cas.
Ah mais c'est pas une valeur,
c'est
la loi.
C'est vrai, c'est la loi.
Ça peut être une valeur en philosophie, mais c'est une loi.
Ça reste malgré tout quelque chose de fondamental pour la société française.
Ah ben, c'est le vivre ensemble. Hein. Si on n'accepte pas les autres dans leurs différences, on n'a pas de vivre ensemble. Et un non-croyant ou un croyant peuvent vivre en laïcité, alors qu'un mouvement qui serait trop religieux empêcherait quand même une expression libre de tout le monde. Mm-hmm. L'égalité, elle passe par ça. L'égalité en culte et en non-culte. Hein. C'est un des fondements de la démocratie.
Mais comme vous l'avez dit, en fait, la laïcité, elle a imprégné, et on le retrouve dans tout un tas de textes, les valeurs fondamentales de nos sociétés démocratiques, en quelque sorte.
Ah ben,
et c'est ça, sa vraie victoire, au-delà du tintamarre médiatique parfois international autour de la laïcité française, c'est qu'en fait, elle s'est vraiment imprégnée dans tous les textes fondamentaux.
Oui, il faudrait juste que les Français pensent qu'on peut la pratiquer d'une manière différente. Oui,
voilà.
Qu'il n'y a pas que la manière française, mais qu'il y a plusieurs manières de pratiquer la laïcité. Toutes les démocraties appliquent la laïcité à leur manière.
D'accord, très bien. Écoutez, Jean-Pierre Chantin, merci d'être venu nous expliquer tout ça.
De rien.
Et chers auditeurs, passez une bonne fin d'année et à l'année prochaine. Merci Mathieu. Au revoir.
Poker menteur. Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.